Bonjour à tous. Un an après son élection, à quoi ressemble le nouveau monde voulu par Emmanuel Macron? Entre littérature, histoire et politique, il explore la part de romanesque inhérente à la vie politique, l'écrivain et critique littéraire Michel Crépu est notre invité à partir de 12h55 à l'occasion de la parution du numéro de mai de la Nouvelle Revue Littéraire Française et de son essai Empêchement qui paraît chez Gallimard. Mais d'abord, le grand retour de Nestor Burma, le détective de Léo Mallet, avec une nouvelle série d'enquêtes conduites dans le Paris d'aujourd'hui, une collection éditée par French Pulp et dirigée par notre invité, le romancier Jérôme Leroy, accompagné de Nania Doucard, spécialiste du genre polar. Rendu ultra populaire par la télé des années 90, pour toute une génération, il est Guy Marchand, célébré aussi en bande dessinée par Tardy, menton fort, pipe à la bouche, mèche brune, oreille décollée, la deuxième vie tout de suite du détective à écouter sur France Culture.
La grande table. Olivia Jesbert.
Nestor Burma, une vie, une figure. On en parle avec l'écrivain Jérôme Leroy, auteur en 2013 du très remarqué Le Bloc, co-scénariste dans cette foulée du film Chez nous de Lucas Bellevaux sorti l'an passé. Vous venez de publier La Petite Gauloise, un roman noir qui vous ramène au lycée, à l'école où vous avez longtemps enseigné, près de Roubaix, c'est ici dans l'Ouest, mais voilà, juste un changement de décor. Et c'est donc sous votre autorité que viennent d'être relancées les aventures inédites du célèbre détective. À votre tour, vous en publiez une enquête, les nouvelles enquêtes de Nestor Burma, Terminus Sud. À nos côtés aussi une spécialiste de polar, Nadia Doucard, chargée de la réédition dans la collection Bouquins chez Lafon, de premières et dernières enquêtes et des nouveaux mystères de Paris en deux volumes, en tout 15 enquêtes publiées entre 54 et 59. Bonjour Nadia Doucard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nestor Burma, à la télé, c'était d'abord ça, une voix, un visage, ceux de Guy Marchand, interprète du célèbre détective pendant plus de 10 ans.
On mélangeait l'humour, le sentiment. C'est exactement ce que j'aime dans le cinéma américain et dans les séries B. La légèreté et en même temps le romantisme. J'ai traversé ça avec facilité. Burma, c'était moi. Donc j'avais pas de problème pour jouer.
Quelques heures après le début de mon enquête, j'avais déjà un cadavre sur les bras. Ma cliente avait perdu les pédales et la criminelle était camée jusqu'à l'overdose. Cette simple affaire de bijoux volés commençait très fort. Sacré Bennec. Pour un serviteur qui aimait la position horizontale, il était servi et une balle en plein cœur. Faut toujours se méfier des jeunes filles de bonne famille, surtout quand on a un cœur d'artichaut. Les fringues de Suzanne traînaient derrière le sofa. Normal. Ce qui était moins, c'était le mobile du crime. Retour à la case départ. Tout se tenait trop bien, peut-être. Le crime parfait, avec l'assassin pris en flagrant délit, l'arme à la main. C'est bizarre. Mais cette fois, je n'y croyais pas du tout.
Sirène parisienne, lui, il s'y croit, Jérôme Leroy, en disciple d'un Léo Mallet que vous avez qualifié un jour de prophète. Ça y est.
Oui, enfin, c'est-à-dire, c'était pour dire que le polar est grand et que
Léo Mallet aussi
est son prophète.
Mm-hmm. Et comme nul des prophètes en sa demeure, vous entrez dans la sienne aujourd'hui avec cette nouvelle série d'enquêtes que vous, une collection que vous dirigez et pour laquelle vous avez déjà dégainé votre plume à vous, Jérôme Leroy, pour signer le deuxième volume de ces nouvelles enquêtes de Nestor Burma, Terminus Nord. Alors comme dans les nouveaux mystères de Paris, la série lancée par Léo Mallet dans les années 50, chaque épisode des nouvelles enquêtes de Nestor Burma s'inscrit dans un arrondissement de la capitale, Paris. Léo Mallet considérait cette ville comme le décor le plus prestigieux pour des histoires policières, le drame clos dans la ville ouverte. Pourquoi avoir gardé cet ancrage géographique, Jérôme Leroy?
Mais c'est par par une forme de tradition liée au roman populaire, parce que Léo Mallet lui-même s'inspirait d'Eugène Sue avec Les Mystères de Paris, c'est-à-dire qu'effectivement c'est l'archétype de la ville, de la grande ville en France en tout cas, parce qu'on démarque souvent par rapport aux États-Unis, mais la spécificité aussi de Nestor Burma est qu'il est de fait le premier détective français tel que les Américains pouvaient l'imaginer, mais moi je trouve qu'il est justement très français.
Et vous auriez pas pu du tout délocaliser les actions dans votre Grand Nord, par exemple, celui que vous
avez cité. Ça viendra peut-être dans le projet de la collection. On va essayer de faire les 20 arrondissements, sachant que Nestor Burma Léo Mallet n'en a écrit que 15. Et puis, comme il va y avoir le Grand Paris, il est pas du tout impossible que des enquêtes aient lieu en banlieue et dans quelques grandes villes européennes. Mais ça, c'est encore à long terme.
Déborde un peu le périph. Hein. Le Paris populaire de Mallet, Nadia Boukhar, il ressemblait à quoi ?
Alors, le Paris de Léo Mallet et celui de Nestor Burma, c'est le Paris tel qu'il existe et tel qu'il est en train de se métamorphoser sous les yeux du détective. Mais ce qui fait aussi la spécificité de Nestor Burma, c'est que, en tant que détective, il décolle aussi le Paris actuel en faisant émerger toute son histoire. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup autour des faits divers. C'est quelqu'un qui est un poète, qui est issu de la frange surréaliste et qui ne peut pas, en marchant dans Paris, ne pas voir un certain nombre de références, d'images, de moments, de cinéma actuel, et qui fait aussi énormément référence à tous ses prédécesseurs, hein, que ce soit Lupin, que ce soit Fantomas, que ce soit son contemporain qui est Maigret. Et du coup, le pari que nous donne à voir Nestor Burma, c'est celui qui se métamorphose sous ses yeux, mais c'est également un pari qui est en train de disparaître et qui fait l'âme même du détective, et qui est un pari poétique, qui est un pari joyeux, qui est un pari avant-guerre, qui est un pari avec toutes les références littéraires qu'affectionne Nestor Burma et Léo Mallet à travers lui.
Nadia Boukhar, est-ce que Burma reconnaîtrait aujourd'hui encore sa ville ?
Alors là, c'est assez difficile de répondre à cette question. Moi, je crois que non, il ne le reconnaîtrait pas. Il ne reconnaîtrait pas Paris aujourd'hui. Léo Mallet lui-même, déjà, avait du mal dans les dernières années de sa vie à retrouver la ville qu'il avait affectionnée et dont il a arpenté vraiment le pavé. Mais je pense qu'il aurait la force poétique et la force d'imagination pour être capable de faire ressurgir un Paris qui a existé et qui n'a pas existé aussi parce que c'est celui du fantasme burma et de le décoller pour nous amener avec lui s'y promener.
Nadia Boukhar, je précise que je ne l'ai pas fait encore, que vous êtes avec nous en duplex d'Aix-en-Provence et on vous en remercie, ainsi qu'à nos confrères qui vous accueillent, pas vraiment satisfaits de l'adaptation télé de son héros Léo Mallet, tout en appréciant le choix de l'acteur Guy Marchand pour sa désinvolture. C'est ce qu'il expliquait dans Libération en 95. Mallet dira: je crois surtout que Burma existait dans un Paris maintenant détruit et qu'il correspondait à une autre époque. C'est un solitaire, aujourd'hui ça ne marche plus. J'ai quand même été très content d'un épisode, Brouillard au pont de Tolbiac, réalisé par Jean Marbeuf. Mmh. Là, il a compris mon univers, ce qui n'a pas empêché des modernisations. Les anards d'avant-guerre sont venus les 68ards, les gitans sont devenus des chinois, 13e arrondissement oblige. Mais cela a été intelligemment fait et l'esprit est là. On comprend bien que l'importance ici pour vous, l'enjeu, Jérôme Leroy, c'est de garder cet esprit Burma auquel vous avez cherché à être fidèle. Comment le définir ?
Ouais, c'est en fait, dans le projet tel que je l'ai défini avec un autre auteur, Sergueï Donovès, qui a fait le premier, c'est-à-dire ce qu'on a fait une bible, en quelque sorte.
Une charte.
Une charte, oui, on appelle ça une bible pour... C'est assez étrange, étant donné le côté libertaire de Burma, mais c'est une bible, dans lequel il est né, donc, en 76. C'est un quadra. Le passé anarchiste est devenu celui des Redskins et de la mouvance Antifa dans les années 95, autour du CIP. Et puis, Hélène Châtelain s'appelle Cardiatou Châtelain, c'est une métisse franco-sénégalaise, avec laquelle, à mon avis, il a un rapport beaucoup plus égalitaire, tout aussi ambigu, mais beaucoup plus égalitaire qu'avec Hélène Châtelain, mais ça aussi, ça a évolué.
Qu'est-ce qui a évolué, le regard, notamment
le regard, oui, puis, sur les femmes, la façon dont les femmes et les hommes, plus généralement, les rapports des hommes et des femmes. Et précisément, mais ça c'est arrivé dans la réalité, le commissaire Farou est devenu une femme, puisque c'est Stéphanie Farou qui est la patronne du 36, qui est maintenant transformée au Batignolles. Et puis pour d'autres personnages secondaires aussi, on a essayé de faire intervenir quelque chose qui n'intervenait pas en tant que tel dans banlieue Burma, qui est la banlieue, avec le personnage de Mansour, qui est un peu l'équivalent de Zavater, c'est-à-dire c'est celui qui va aider, qui aide ponctuellement Burma. Et là, en l'occurrence, Mansour est un jeune homme de Bondy et qui est surdoué en informatique, parce qu'effectivement, et notamment dans les nouvelles technologies, parce que précisément, ça aussi, c'est quelque chose, c'est un élément qui joue un rôle important aujourd'hui. On ne peut pas faire comme si on n'était pas dans une, par exemple, dans Terminus Nord, Gare du Nord, avec quelque chose comme 600 caméras de surveillance pour une gare. Donc, ça suppose forcément une autre façon d'enquêter ou d'échapper au regard des autorités.
Voilà, dans votre Terminus Nord, il s'interroge d'ailleurs sur l'utilité de Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ou encore Tumblr. On dirait des noms de médicaments, dit Nestor Burma, ou de boissons gazeuses trop sucrées. Et puis vous évoquez dans ce roman, cet épisode, le Darknet, Snowden, les attentats de 2015, les taxis qui s'engueulent avec les Uber, sans oublier l'hipster et les Vélib. Ça, c'est le nouveau monde aussi pour Nestor Burma. C'est dans cette époque qu'il débarque, que vous le projetez. Est-ce qu'il y a encore sa place ?
Ah ben, je pense tout à fait, mais ce qu'expliquait Nadia Doukar est très juste, c'est-à-dire qu'il y a déjà dans le Burma originel, il y a ce sentiment que, non pas c'était mieux avant, parce que c'est pas un réac, mais qu'en tout cas quelque chose est en train de disparaître sous ses yeux. Et c'est exactement la même chose avec mon quadra, mon Burma quadra, qui finalement s'aperçoit qu'il y a a connu le monde d'avant les nouvelles technologies. J'y reviens quand même, donc il se trouve avec entre sa secrétaire, entre Kardiatou et Châtelain et Mansour par exemple, s'aperçoit qu'il peut pas faire sans eux parce qu'ils ont une espèce de virtuosité. Enfin, eux, c'est vraiment la génération qui n'a connu que ça. Pour le reste, oui, bien sûr qu'il a sa place parce que précisément, il est ce personnage qui est le détective privé, c'est-à-dire qui est un marginal qui crée son propre code de valeur. Qui a qui a d'abord une certaine distance par rapport au bien, au mal, comme les vrais héros de romans noirs, parce que c'est important de savoir que, au-delà même de Burma, Léo Mallet est un des pères fondateurs du roman noir à la française, qui n'est pas le roman policier. Et ce personnage, il a tout à fait sa place aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est une espèce de marginal moi, ce qui m'avait fasciné chez le Burma de Léo Mallet, c'était cette façon de pouvoir progresser dans tous les milieux sociaux. Mais comme Arsène Lupin, que citait aussi Nadia Doukar, c'est-à-dire que c'est le propre du héros populaire, il est parfaitement à l'aise, que ce soit dans les beaux quartiers, que ce soit dans les quartiers plus populaires ou les quartiers plus dangereux.
Vous avez gardé l'esprit, mais changé sa vie jusqu'à son acte de naissance, vous l'évoquiez, né ici avec vous en 1976. Léo Mallet datait plutôt la naissance de son héros, de son personnage au début du XXe siècle. Nadia Doukar, en fait, Nestor Burma est aussi un enfant de la guerre. Il est né littérairement en 42-43 sous la plume de Mallet dans le 120 rue de la Gare, avant même qu'il entame cette série des nouveaux mystères de Paris. Est-ce que cet acte de naissance a marqué sa personnalité ?
Oui, alors, en effet, Nestor Burma apparaît pour la première fois dans 120 rue de la Gare en 1943. 120 rue de la Gare, comme le disait justement Jérôme Leroy, c'est aussi un des premiers romans noirs français. On a souvent reproché, entre guillemets, à Léo Mallet d'avoir puisé chez Hamet chez Chandler, pardon, alors que c'était des aventures qui venaient de naître aux États-Unis et qui n'étaient même pas apparues encore en France. Et c'est vrai que la guerre et le fait de situer son personnage revenant du Stalag en 43, la guerre se prête malheureusement forcément à ce roman noir, où le roman noir c'est pas seulement la pluie, la nuit et des personnages qui savent plus où ils habitent ni à quelle valeur s'accrocher, c'est aussi une déliquescence du monde, tout simplement. Donc c'est là que, en effet, Léo Mallet fait apparaître Nestor Burma pour la première fois. Toutefois, il l'a quand même esquissé à travers un certain nombre de personnages antérieurs. Et puis il va lui reconstruire, et ça aussi c'est un peu le propre du roman policier, il va lui reconstruire une histoire à mesure qu'il va faire évoluer son personnage. Et de fait, la première aventure véritablement de Nestor Burma, c'est Gros plan du Maccabée, qui n'est publié qu'en 1949, où il rencontre Marc Covey, qui est donc le journaliste qui va être un personnage de toutes les aventures de Nestor Burma. Et c'est grâce à l'aventure de Gros Plan du Mikabe qui paraît en 1949 que Nestor Burma va fonder Fiat Lux. Donc il va reconstituer un passé. Voilà, pardon, son agence, tout à fait. Il va reconstituer un passé à son personnage, strictement comme Maurice Leblanc l'a fait avec Arsène Lupin, comme Sherlock Holmes a également eu une biographie qui s'est construite après. Maigret, c'est exactement le même processus de construction. Mais la première apparition de Nestor Burma, en effet, c'est en 1943 dans son Varul Dakar.
Votre Nestor Burma, Jérôme Leroy, raconté par sa secrétaire, a été Redskin, a cassé du faf dans le métro, alors qu'elle était à peine née. Et elle lui dit, vous avez même été un peu hors la loi. Et elle souligne ça, sa vraie vie, celle de Nestor Burma, sous la plume des Léo Mallet. On la découvre au fil de ses aventures. On va notamment découvrir qu'il a fait de la prison, qu'il a fréquenté les milieux anarchistes. D'ailleurs, Mallet insiste sur le fait qu'il est profondément imprégné de culture libertaire. Il n'éprouve aucune sympathie pour l'ordre établi. C'est un empêcheur de tourner en rond, déjà sous Mallet.
Oui, moi il y a deux éléments qui me semblent importants dans qui structurent le personnage hier comme aujourd'hui, c'est le passé libertaire et c'est le goût de la poésie dont a parlé Nadia Doukar, notamment à travers la fréquentation des surréalistes. Et moi, il continue à lire de la poésie. Dans Terminus Nord, il a même un ami poète qui se fait assez... Enfin, bon, je ne vais pas raconter en détail, mais... Et ce rapport au monde, parce qu'en fait, il n'y a pas de contradiction pour moi entre le roman noir et la poésie, c'est une vision... poétique de la ville, c'est en mesure, si on entend par poésie, hein, une forme de décalage du regard sur notre quotidien. Et oui, moi je pense que c'est vraiment ce qui le structure, c'est ça. Et hier comme aujourd'hui, c'est pour ça que apparemment tout change dans la série chez French Pulp, mais en fait rien, c'est tout change pour que rien ne change en fait. Enfin, selon l'axiome connu du guépard.
Ça leur aurait intéressé, Nestor Burma, d'infiltrer, par exemple, le groupe de militants des Black Blocs qui ont, eux, infiltré la manif du 1er mai.
Ah, mais je pense qu'ils auraient pas infiltrés. Je pense qu'ils les auraient regardés avec une certaine sympathie qu'il aurait pas non plus crié sur la place publique, mais il aurait. C'est ses petits frères. Enfin, ou ses fils même maintenant, parce que comme le temps passe très vite, mais voilà, mais parce que effectivement, il est facile. Si on lit Brouillard au pont de Tolbiac, c'est quand même des communautés. C'était quand même des gens qui étaient ce qu'on appelait les en dehors. Enfin, c'était plutôt au début du siècle, mais voilà, c'est-à-dire que c'est une autre. Oui, il a une sympathie pour ça, même s'il est revenu de pas mal de choses. Il garde quand même.
Pour ceux qui sèment un peu le trouble.
Oui,
à l'ordre
en tout cas
public.
pour ceux qui ne se laissent pas faire ou qui sont les mouches du coche.
Mais d'ailleurs, il y a dans leur slogan des références à la mouvance libertaire, le Black Bloc colore nos vies. De son côté, vous qui avez aussi écrit, alors ça c'est d'un autre bloc que vous parliez, Jérôme
oui,
Leroy,
pas le même genre de beauté, voilà, oui.
À l'autre extrême. Vous avez aussi écrit ce roman d'anticipation à ce sujet. Les Black Blocs, pour ceux qui n'auraient pas compris, qu'est-ce qu'ils défendent?
Bah, les Black Blocs, c'est pour l'instant. Enfin, je suis pas un spécialiste de la question malgré tout. Mais enfin, c'est comme d'une certaine manière comme Léo Mallet, comme Nestor Burma. Enfin, il y a pas de chef. Il y a des affinités. Voilà, c'est un groupe affinitaire. C'est pas une force constituée. Enfin, je souhaite bien du plaisir au pouvoir qui parle de dissoudre les Black Blocs, parce que pour dissoudre quelque chose, encore faut-il que ce soit une forme constituée. Et à ce titre-là, il y a une forme de au-delà, on peut évidemment condamner les violences, etc., etc. Il n'empêche que ce sont des gens qui se de manière très spontanée s'agglomèrent à un moment donné pour des actions données, et puis après repartent dans la nature.
Une vie sans filature, Jérôme Leroy, voilà ce que vous écrivez dans votre Nestor Burma Terminus Nord, sans castagne, sans jouer la mouche du coche avec les salauds de tout acabit qui croyaient pouvoir agir en toute impunité parce qu'ils avaient des amis dans la police ou du pognon ou du pouvoir ou les trois en même temps. Pour moi, ce ne serait pas une vie, soyons honnêtes. Votre Burma, deuxième volume des nouvelles enquêtes intitulé Terminus Nord, s'ancre donc dans le 10e arrondissement de Paris, appelé à la rescousse par la commissaire Farou qui a perdu son numéro 2 pour l'aider dans une enquête impliquant des policiers et des hommes politiques corrompus, ainsi que la mafia du quartier. Il suspecte un réseau organisé pyramidal au sein des forces de police et peut-être de l'appareil d'État. Alors, ce qui est rigolo, c'est que face à la caméra de surveillance, votre Nestor Burma ne peut pas résister à la provocation. Je ne savais pas qui nous regardait. Ça pouvait être des flics du 10e ou des séditieux du Bastion ou même la commissaire Farou, voire les trois en même temps. Je n'ai pas pu résister. J'ai envoyé un bisou à l'objectif, mon côté gamin provocateur. Je n'avais pas changé depuis l'internat Picard. Il avait une sacrée personnalité, ce Nestor Burma d'hier. Il l'a encore aujourd'hui.
J'espère,
la télé l'a un peu lissé. idée, quand même.
Bah, c'était, oui, bah, moi, ce qui m'intéressait dans l'entreprise initiée par French Pulp et Nathalie Carpentier, ce qui m'intéressait quand même, c'était cette idée que il n'y avait pas de raison que c'est un héros mythologique pour moi. Il appartient à une forme de mythologie française qui est celle du héros populaire. Et donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une nouvelle génération qui s'en empare, de génération d'écrivains, de lecteurs, parce que effectivement, mais je vais pas non plus critiquer la série avec Guy Marchand ou encore moins les BD de Tardy, parce qu'elles ont au moins le mérite de prolonger, de laisser le héros comme présent dans l'imaginaire collectif. Et voilà, moi ce que j'espère maintenant avec cette collection-là, c'est lui redonner du peps.
Une nouvelle jeunesse.
Une nouvelle jeunesse, que ça soit pas seulement patrimonial. Mmh. Il y avait, voilà.
Les nouvelles, la nouvelle vie, oui, de Nestor Burma avec nos deux invités, la spécialiste de polar Nadia Doukar qui était en charge il y a une petite dizaine d'années, la réédition dans la collection bouquins chez Lafon des Nouveaux Mystères de Paris en deux volumes et avec l'écrivain romancier Jérôme Leroy qui se charge lui maintenant de diriger une nouvelle collection de nouvelles enquêtes toujours autour de Nestor Burma. C'est édité par French Pulp et sur France Culture, il est déjà midi 23.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Nestor Burma, fidèle à sa devise, vous nous le rappelez, Nadia Doukar, Arsène Lupin ne puit, Maigret ne daigne, Burma suit. S'il se compare à ses prédécesseurs, il reste pour l'historien Jean Tullard, auteur du dictionnaire du roman policier, le premier détective privé de la littérature policière française. Alors comment est-il né dans le cerveau de Léo Mallet? Écoutez.
Dans mes premiers bouquins, il y avait un journaliste. Je ne voulais pas faire un policier ordinaire, un Maigret, un policier officiel.
Ou Arsène Lupin.
Arsène Lupin était déjà pris. J'aurais bien fait un Arsène Lupin, mais c'était déjà pris. Maigret ne m'intéressait pas parce que les commissaires de police, en général, ne m'intéressaient pas. Alors je me suis dit, je vais mettre un bonhomme qui se rapprochera un petit peu de toi-même, un petit aventurier, comme ça, un gars qui vient on ne sait d'où. Et alors je vais en faire un détective privé. Et alors voilà, et alors je l'ai appelé Burma parce que j'avais lu dans un bouquin un bonhomme qui venait de Burma parce qu'il y avait une mauvaise traduction. C'était un type qui venait de Birmanie. Burma, ça m'avait frappé. Et je l'ai appelé Nestor parce que ça faisait Nestor Burma, ça faisait baraque foraine, vous savez. D'ailleurs, si un jour à la télévision on faisait des aventures de Nestor Burma, je voudrais qu'à la suite de l'apparition du carton Les Aventures de Nestor Burma, il y ait un énorme coup de cymbale, comme à la fête du trône. Avec qui voulez-vous lutter, voilà.
Hein? Je vous dis. Alors qu'est-ce qu'on peut faire?
Peut faire connaître.
On s'y emploie, mais quand même la réédition des œuvres est un bon commencement.
Et oui, merci à vous Nadia Doukar. Alors quelle est sa marque de fabrique à Nestor Burma? Est-ce que c'est la même que celle qui caractérise son auteur-concepteur Léo Mallet qu'on vient d'entendre? Vous diriez c'est l'humour avant tout?
Nestor Burma, oui, c'est un personnage. Bon, c'est important de dire que c'est un personnage aussi qui est un des premiers de la littérature policière à parler à la première personne. C'est-à-dire que du coup, la confusion entre Léo Mallet et Nestor Burma, c'est même plus là une question de confusion. C'est deux personnages qui ont le même passé, qui ont le même rapport au monde et le rapport à la ville et le rapport à la justice. C'est un personnage, Nestor Burma, qui est donc très marqué par son époque et par son environnement. Et c'est un détective privé comme l'a souligné Léo Mallet, c'est-à-dire que il est franc-tireur, hein. Il parle souvent de lui d'ailleurs en s'appelant franc-tireur. C'est un justicier et c'est quelqu'un qui décide ou pas d'enquêter et qui va en fait beaucoup subir et être malmené par les événements, les circonstances, et qui un peu comme dans la méthode automatique d'écriture du surréalisme va se laisser taper dessus, amener à tel endroit, et va laisser en lui-même tout ça se maturer jusqu'à ce qu'il y ait un éclair de lumière, fiat lux, que la lumière soit et que la vérité surgisse. Donc c'est un personnage qui semble beaucoup plus subir les choses que ses prédécesseurs ou que ses contemporains, et en même temps c'est aussi une question de poésie, c'est-à-dire que la poésie elle naît de partout, elle naît de nulle part, elle naît du regard, elle naît de la parole. Et elle naît surtout de cette capacité à se laisser conduire et à se laisser mener sur une démarche qui est assez instinctive. Et je crois que ce qui qualifierait Nestor Burma dans sa méthode d'enquêteur, c'est l'instinct et c'est la capacité à prendre du recul avec le monde pour s'en protéger grâce à l'humour qui peut quelquefois en effet virer au cynisme, pardon, grâce à la langue aussi, parce que
Nestor Burma, c'est quelqu'un qui... Oui, il y a ce ton, Nadia Doukar, ce ton burma, un peu ironique, presque sarcastique, que vous n'avez pas cherché d'ailleurs à reproduire, Jérôme Leroy. Il y a une langue, mais pas au mot près. Hein. Je vous cite Jérôme Leroy, derrière ses allures de ziva, envoyer un zonzon, showbiz, me faire yèche, ça c'est sûr que dans les années 50, on ne parlait pas comme ça, ni dans la bouche de Néo Malais, ni sous sa plume avec Nestor Burma. Est-ce que vous retrouvez quand même, Nadia Doukar, dans ces deux premiers volumes de cette nouvelle série lancée par Jérôme Leroy, au moins un état d'esprit dans la langue aussi, une continuité?
Alors, je ne vais pas parler de la série de Jérôme Leroy parce que, pour ne rien vous cacher, je ne la connais pas encore.
Elle vient d'arriver.
En revanche, oui, il y a chez Nestor Burma. Nestor Burma, c'est un personnage dans lequel le monde se retrouve. C'est-à-dire que nous avions jusqu'ici dans la littérature policière des personnages qui étaient souvent duels et scindés en deux. Que ce soit Sherlock Holmes, que ce soit Arsène Lupin. Nestor Burma est beaucoup plus complexe et il porte en lui la complexité du monde avec toutes les langues, justement, du monde. Donc, c'est un personnage qui est capable de passer de registres soutenus à des registres très familiers, qui manie la gouaille, qui manie l'argot, qui est capable à un moment donné de citer Aragon comme ça au débeauté ou un certain nombre d'autres références poétiques, qui est capable de remonter un siècle ou deux siècles en arrière pour faire émerger des personnalités historiques plus ou moins réelles, et qui à côté de ça, en effet, Jérôme Leroy le soulignait, est capable d'évoluer dans tous les milieux sociaux et d'en adapter la langue.
Et d'explorer aussi la violence de son époque. Léo Malais et Nestor Burma partagent les mêmes goûts littéraires. Vous l'évoquiez aussi, Nadia Doukar, Apollinaire ou Mallarmé, Dumas ou Brassens, et la même culture poétique et la même attirance pour les jeux de mots, les antiphrases. Vous vous en êtes donné à cœur joie, Jérôme Leroy. Dernière question, vous prenez autant de plaisir à écrire vos propres intrigues qu'à vous glisser dans la peau d'un autre?
Ah oui, mais complètement, oui. Notamment, je ne suis pas spécialement un habitué de la première personne dont parlait Nadia Doukar, et c'est une expérience extrêmement intéressante parce qu'effectivement, ça rend le héros complètement, surtout quand il est plongé dans des intrigues très très dures, ça rend le héros totalement humain et totalement assez peu maître, à vrai dire, de son destin et de son enquête. Et ça, c'est à côté.
Il n'y a plus de filtre entre le narrateur et l'auteur.
Et voilà. Et en plus, c'est pour ça que chaque écrivain qui viendra s'appropriera lui-même la Bible, enfin le cahier des charges, et donnera lui aussi sa version.
Voilà, une Bible pour créer une unité d'une enquête à l'autre entre les différents auteurs qui vont se saisir de cette nouvelle collection que vous dirigez, les nouvelles enquêtes de Nestor Burma. Merci beaucoup Jérôme Leroy, je rappelle la parution le mois dernier de votre nouveau roman à vous, plutôt d'anticipation, roman noir, La Petite Gauloise. C'est aux éditions La Manufacture de Livres. Merci beaucoup à vous aussi Nadia Doukar. On peut toujours trouver dans cette collection bouquins chez Robert Laffont vos nouveaux Mystères de Paris, cette réédition des aventures de Nestor Burma par Léo Malais, réagencé et mis en contexte. Merci à tous les deux.